Bonjour à tous. Je m'appelle Joseph et je suis iranien, je suis musulman converti. Il y a 25 ans, je suis donné mon corps à Jésus-Christ. J'étais chiite avant, mais c'est terminé. J'ai autre vie maintenant. Dès que j'ai entré dans cette petite porte, ce que je vois, c'était le Saint derrière. Je me suis dit, oh mon Dieu, c'est belle ici, c'était apparemment un théâtre, mais je retrouve que c'est correct. C'était un théâtre. Normalement, quand je regarde autour de moi, je dis, Seigneur me parle, je cherche, Seigneur, ok, ça, qu'est-ce que tu veux me dire? Ce n'est pas un spectacle vraiment. On n'est pas là pour regarder un spectacle. Ce n'est pas un théâtre. C'est la salle, chapeau, c'est très bien. Bien lumineux, bien spacieux. Mais franchement, la vie chrétienne n'est pas un spectacle. C'est un spectacle ou un spectacle? Un spectacle, oui. J'ai besoin de vous vraiment pour me corriger. Et quand je regarde cette poupite, on dit? Poupite. Je me suis dit, oh là, je ne veux pas être caché derrière. Ça, c'est transparent. Et ça, elle m'a parlé aussi. Pour rester ici, il faut être transparent. Il faut être vraiment ouvrir avec le corps ouvert. Et ça, avec cette corps ouvert et cette transparence, on peut dire non. Cette transparence que je veux partager avec vous, mon témoignage. Après, j'ai donné ce petit micro à ma belle femme. Non, on dit quoi? Oui, ma femme. Oui. Oui. Et après, on va regarder un petit DVD ensemble à propos de mon pays et ce qui passe là-bas actuellement. Et après, je vous partage la mission qu'on fait ensemble, moi et Mina, pour le royaume de Dieu. Alors, mon vrai prénom, ce n'est pas Joseph, c'est Sharia. C'est Shahriar. Vous pouvez répéter? C'est pour ça que j'ai changé. Chaque fois, on m'a dit, quoi? C'était quoi déjà, prochaine fois? C'était quoi déjà ton prénom? Je dis, ok, je vais changer. Première occasion, c'était naturalisation. Alors, dès qu'on est devenu français, j'ai changé mon prénom. Mina garde son prénom parce que c'était bien, belle, on peut prononcer, garder dans la tête. On a Nina en France, mais ma femme, c'est Mina. M-I-N-A. Alors, j'ai changé mon prénom, Joseph, tout le monde sait. Joseph, c'est qui? C'est quoi? Enfin, c'est deux. Moi, je prends le Joseph de l'Ancien Testament. Si vous pensez à moi, pensez à lui. Enfin, si vous pensez à lui, pensez à moi. Ça, peut-être ça, c'est mieux. Alors, je suis né dans une famille musulmane, heureusement pas extrémiste. Enfin, mon papa, maman, on n'était pas les gens de voile comme ça. Mais c'était quand même musulman. Sayyid, chiite, sayyid. Est-ce que vous connaissez des sayyids? Vous connaissez la différence entre chiite et sunnite? Alors, c'est comme des catholiques et protestants. Enfin, comme on peut comparer comme ça que chez les chrétiens, il y a des catholiques qui acceptent la Bible. Après, ils acceptent le pape, le premier, deuxième. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Un représentant de Dieu sur terre, c'est monsieur le pape. Les chiites aussi, ils croient de 12 imams, Coran, et représentants de Dieu sur terre. Que pour l'instant, il dit que c'est Ayatollah Khamenei, force suprême en Iran, le grand chef, leader de Iran. Il est représentant de Dieu de l'islam, d'Allah, sur terre. Alors, il faut l'obéir. Mais les sunnites, c'est plus ou moins, si on peut comparer, c'est comme des protestants. La Bible et rien d'autre. Pour eux, c'est Coran, deux imams et rien d'autre. Alors, parmi tous les deux côtés, on a des groupes terroristes. Et là, des groupes terroristes, Al-Qaïda, c'est bien sunnite, et Hezbollah, c'est bien chiite. Alors, chez nous, en Iran, on est des chiites. On est une majorité des chiites. Mais mondialement, les chiites sont des minorités de chez minorités. Peut-être 15%. 17%, ou bien, ok, parce que c'est vous, 20% de musulmans dans le monde sont des chiites. Mais ils sont concentrés tout en Iran. Majorité en Iran, c'est des chiites. Et si vous voyez les moullahs avec leurs turbans, Si vous remarquez, il y a deux couleurs. Parfois c'est blanc, parfois c'est noir. Alors le noir, ils sont des Sayyids. Parmi les chiites, il y a des Sayyids, ils sont descendants de Mahomet. Si je n'étais pas un pasteur, j'étais un imam, j'avais un turban noir. Parce que je suis un Sayyid, un descendant de Mahomet. Je ne sais pas comment c'est arrivé, exactement c'est vrai ou bien on a falsifié un peu de documents avant. Je ne sais pas, mais ma famille, c'est la famille Sayyid. Et la grande roue, disons, plus ou moins comme Champs-Élysées, au cours de Téhéran, sur mon nom. C'est avenue de Nawab Safavi, enfin, Shahid, c'est martyr. Martyr Nawab Safavi, qui est mon nom. Je suis Joseph Nawab Safavi. J'ai un brochure que j'ai apporté pour vous. Avec permission de pasteur, je peux vous donner après que vous gardez dans votre Bible, priez pour moi. C'est bien. C'est un peu grand comme un marque-page, mais on peut utiliser comme marque-page. Alors, ma famille, c'est mon papa Mahomet, il s'appelle Mahomet, c'est ma mère Parivache. Et je suis né en 62, exactement même année que Jamie. On a même âge. 47, et bientôt dans moins d'un mois, 47 va terminer, je vais dans la 48e année de ma vie. Et j'ai accepté Seigneur quand j'étais à l'université. Je dois reculer un peu, marche arrière, juste révolution. 79, révolution tomba en Iran. Le roi Shah, Mohammad Reza Shah, Aryamer, son nom et prénom, il a quitté l'Iran avec force de l'étranger pour laisser la place pour Ayatollah Khomeini, qui est venu de où? Ici, vous les Français, vous avez fait ça, franchement. Et merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. C'est grâce à l'islam et grâce à cet gouvernement extrémiste que les gens sont soif en Iran. Merci beaucoup, vous avez envoyé lui. Vous avez bien gardé pour nous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne quelqu'un pareil, vraiment, en sens positif pour un réveil. Parce qu'en Iran, avant la révolution, on parle de gens, évangélisation dans le parc, ou bien personne intéressé. Poche remplie de l'argent, tout va bien. Crise économique. On n'a même pas savoir écrit, rien du tout, on n'a jamais entendu parler. Visa pour l'étranger, rien du tout. On prend un billet, le billet de rial iranien. On va à Los Angeles, la banque, on change avec dollars. Vraiment, on vivait comme des rois. Aucun problème. Un jour, un ami m'a dit qu'avant la révolution, on fait la fête tout le temps, on fait des kebabs, tous les soirs on fait la fête, mais cette foutue salaire, on n'arrive pas à le terminer. Vous avez entendu ça? On n'entend pas, c'est pas quelque chose qu'on entend dans notre quotidien. Cette foutue salaire, j'arrive pas à le terminer, ça reste encore. Qu'est-ce que je peux faire de ça? Tous les 3-4 mois, voyage en Europe, à Paris, Los Angeles, Californie, tout. C'était ça la vie des Iraniens. Mais à partir de 79, tout est changé. Le prix grimpe, le salaire baisse, la valeur de dollars qui était chaque 4 rials, 4 tomans, je pense, c'était 1 dollar. Maintenant, c'est quoi? C'est à peu près 1000. 1000, 1200. Terrible, terrible. Économie détruite en Iran, avec tout le pétrole qu'on a sous notre pied, on ne peut rien faire. Cet gouvernement qui dirige l'Iran maintenant, c'est extrémiste. Tous les gens, les assassinats, les prisons remplies, même des cellules qui étaient construites pour 3-4 personnes. Maintenant, il y en a 10, 15 ou peut-être 20. 20 personnes, c'est triste vraiment. Mais c'était comme ça, c'est devenu comme ça. Et pendant cette période, dans ma tête, j'étais un jeune garçon de 17 ans, je suis jeune toujours, comme notre frère avec son histoire de montre, où il est maintenant. Ah oui, ok. J'étais jeune toujours, j'étais jeune, j'avais 17 ans à l'époque, et j'ai beaucoup pensé, le mouvement, toujours, à l'école, dehors, on voit toujours islam, islam, islam. Finalement, je suis devenu musulman. Enfin, j'étais non pratiquant. À cette époque-là, j'ai décidé de suivre Allah, coûte que coûte. J'ai commencé à lire le Coran et j'ai commencé à faire le namaz, cette prière des musulmans. On dit namaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Vous avez entendu ça peut-être dans le film ou bien au Maroc, ou là où vous voyagez en Nord-Afrique. On entend ça. Et cette namaz est toujours vers un destin précis. C'est Mecque. C'est normalement vers le sud, ça dépend où nous sommes, un peu en angle de droite ou gauche. J'ai commencé, vraiment, j'ai fait le bon namaz. J'ai réfléchi de tout ce qui sort de ma bouche en langue arabe, que j'ai essayé de savoir qu'est-ce que je suis en train de dire. C'est pas comme un perroquet qui est seulement répété des choses. 28 jours après, j'ai arrêté tout. J'ai suivi ce chemin pour retrouver un Dieu, pour retrouver quelqu'un ou bien une présence que je peux avoir un dialogue avec lui. Qui a dit ça?
J'ai parlé de relation.
Oui, exactement, merci. Pour la sentir, exactement. Pour savoir, ok, c'est Dieu qui m'a créé, qu'est-ce qu'il a à dire? Ok, je suis là, je t'écoute, parle avec moi. Une semaine, deux semaines, j'étais sincère, vraiment. Je ne jouais pas un théâtre. Non, même quand j'étais musulman, j'étais sincère. Passe une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines. Mais c'est vide, il n'y a rien. Je suis un musulman, je suis chiite, je suis sayyid, j'ai tous les ingrédients, vraiment, comme apôtre Paul. Il avait tous les ingrédients pour être un bon juif. Lui, moi, musulman. Mais rien n'est passé. Rien du tout. Quand je lisais le Coran, ou bien lisais des livres qui expliquent le Coran, c'est... Il n'a pas d'esprit. C'est comme un bois, c'est comme un pierre. Il ne parle pas. Je vois que tout est humain et compréhensible. Il n'y a pas de spiritualité. Alors, j'ai renié tout. J'ai dit, ton Dieu, écoute, toi, Dieu, je fais tout pour te connaître. Alors, ce dernier qui est le meilleur des religions, et c'est le plus récent, c'est complet, tout le monde dit que c'est complet, il n'a pas de réponse pour toi. Alors, on ne parle pas des autres. C'est terminé entre moi et toi, je suis un communiste. Et je suis devenu un communiste pur et dur. Pour la tête de Lénine, je faisais des choses, vraiment des bêtises. Et je suis entré à l'université. Chez nous, l'université n'est pas comme ici, n'est pas simple pour entrer. Il faut passer un grand concours national. Dans tout le pays, Iran, c'est un jour. Disons 100 000 personnes jeunes, normalement, avec leur baccalauréat à la main. Ils entrent dans cette compétition. Et comme par hasard, je suis... élu, on dit non. Je suis reçu. Et je suis allé en université de l'art. Je suis un artiste. L'université de l'art en sud de Téhéran, en Ispahan. Ispahan, c'est une grande ville, très 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 jolie ville, 500 km sud de Téhéran. Le premier trimestre là-bas, j'ai rencontré quelqu'un dans notre classe qui a dit, je suis chrétien. Enfin, après, j'ai compris qu'il était chrétien. Je voyais qu'il est un peu différent que les autres. Et à cause de distance, on fait le voyage, pas ensemble, mais elle était avec avion. Moi, j'étais avec le bus. J'avais pas assez de sous pour prendre billet d'avion. Mais on parle de ça. Qu'est-ce qui se passe à Téhéran? Chaque semaine, tu vas à Téhéran? Oui, chaque semaine, chaque week-end, je retourne à Téhéran. C'est 500 km quand même. Elle m'a invité un jour. Elle m'a dit, vendredi, viens ici, c'est l'adresse. Viens, je suis là avec mes amis. Je me suis dit, avec ses amis, ok, on va passer bon temps ensemble. Il ne m'a pas dit que c'est une église. Rien du tout. J'étais pas prêt de, vraiment à une église. Non, je pensais sur, dans une maison, les filles et garçons, on se réunit, on s'amuse ensemble. Donc, ok. Mais tout contraire de j'ai pensé, j'ai suivi l'adresse, j'ai dit, oh non, ça doit pas être ça. J'ai cherché, non, finalement, c'était ça. Grande église, grand bâtiment, sur à l'entrée, comme votre entrée, qui c'est écrit église, baptiste, évangélique, ou quelque chose comme ça, j'ai pas lu exactement. Oui, protestant, évangélique, protestant, oui. Là-bas, c'était écrit, aimez les uns et les autres comme je vous ai aimé. Évangile de Jésus-Christ. Immense, très, très, très grande. Et dans le pays musulman, cette écriture-là, c'est pour l'islam, c'est pas pour verset de évangile. C'était vraiment, j'ai regardé ça. Bon. C'est tellement beau, vraiment, c'est en or, en couleur or, sur un fond bleu. C'est exactement, c'est quelque chose artistique que normalement on utilise dans la mosquée, pas dans une église. Mon ami arrive et paf, tout est commencé ce jour-là. On rencontre avec l'église, avec la Bible, avec les chrétiens, avec les pasteurs, avec ce monde merveilleux de christianisme. Et j'ai cherché. Je prends contact avec le pasteur, je parlais avec lui. Et un jour, c'était chez nous, c'est vendredi, le jour de repos, c'est comme dimanche ici. Là-bas, c'est vendredi, et bien l'église a un culte vendredi matin, au lieu de dimanche matin, c'est vendredi matin. Et le pasteur, vraiment, parlait pas, c'était pas quelqu'un enthousiaste qui saute et chante et crie pour vraiment stimuler les gens. Non, c'était un calme, un homme très très calme, partage la parole, un monotone, vraiment. Mais j'étais en train de mourir. J'étais en cet état. Franchement, j'étais comme ça. Et je me suis dit, Joseph, qu'est-ce que t'as? Il dit rien. Enfin, ce n'est pas quelque chose de spécial. C'est parce que dans l'église Pentecôtiste ou l'église ADD, j'étais une deux fois, j'ai passé là-bas. Avant cette réunion, je voyais le pasteur qui vraiment, avec enthousiasme, saute et chante, vraiment tout le monde avec lui. Et cette fois-là, rien, c'est normal, très normal. Et moi, j'étais en train de mourir, étouffé, vraiment. Je me suis dit, Joseph, attends, j'ai un problème cardiaque. Et si vous remarquez, avec prière de pasteur André, j'ai posé mes mains sur mon corps. J'ai un problème cardiaque dès ma naissance. Et je suis opéré du corps avril 2008. On m'a ouvert, on a sorti le corps, bien nettoyé, changé la valve, je mets à sa place pour redémarrer de nouveau. Mon corps était en repos pendant 25 minutes. Dormir pendant 25 minutes, mais le corps était attaché dans autre, disons, corps artificiel. Artificiel, qui est le sang court et mon cerveau ne sèche pas. Finalement. Et j'avais peur de ne pas avoir crise cardiaque ces jours-là. Parce que j'avais un battement de corps, avec vraiment une respiration très forte. Je me suis dit, tu vas mourir dans quelques secondes. C'est crise cardiaque garantie. Alors, culte est terminé. Lui, il descend. Tout le monde est parti. J'arrive pas. J'ai essayé de décoller de cette chaise. J'arrive pas vraiment. Alors, j'ai commencé à pleurer comme un bébé. C'était étrange pour moi. Je me suis dit, qu'est-ce que t'as toi? Pourquoi tu pleures? Et je vois tous les péchés que je faisais avant, toutes les mauvaises paroles, tous les gros mots, toutes les bêtises qui vraiment... On fait des listes interminables, qui est plusieurs pages, je pourrais écrire tout ce que j'ai fait. Tout s'est devenu devant mes yeux. J'ai confessé tout. Un des grands péchés que j'ai fait, je me suis dit que le mot de Dieu ne doit pas sortir de ma bouche. Alors, au revoir chez nous, c'est que Dieu te garde. On dit « Khoda hafez » à la place de « au revoir » pour quitter l'un l'autre. Chez nous, on dit « Khoda hafez », c'est-à-dire que Dieu te garde. Je me suis dit, ce mot, je n'utilise pas. Je n'ai pas dit que Dieu te garde. J'ai dit ciao, ou bien see you later, ou bien bye bye, ou bien les choses comme ça, pour que ce mot de Dieu ne sorte pas de ma bouche. Je me suis dit, écoute, Joseph, tu ne salis pas ta bouche avec son nom. J'étais dans cet état-là. Après que je suis entré, ça qui est plus fort pour moi, c'était cette phrase que j'ai dit à moi-même. Qu'il ne faut pas sortir, il ne faut pas salir ta bouche avec son nom. Et ces jours-là, j'ai pleuré. Je dis, excusez-moi, pardon. Franchement, je ne savais pas quoi faire. Ces jours-là, Jésus entrait dans mon cœur. Ces jours-là, j'ai resté combien de temps collé sur cette chaise en train de pleurer, je ne sais pas, 10 minutes, 20 minutes, je ne sais pas. Mais je me suis levé. C'est correct, je me suis levé? I stood up. Oui, je me suis levé. J'ai pensé que ma tête touche le plafond. Franchement, c'est un sentiment de légèreté. J'étais tellement léger. Je pensais que ma tête, que j'avais plus de cheveux que maintenant, était en train de toucher le plafond. Vraiment, j'ai volé jusqu'aux portes sorties. J'ai descendu. On avait exactement comme ça. On avait une salle annexe en bas. On est allé pour boire du café. Enfin, là-bas, il n'y a pas de café, c'est du thé. Avoir du thé, on peut passer du temps ensemble. Tout le monde qui arrive, il m'a dit, félicitations. Bienvenue parmi nous. Je ne crois pas, bienvenue. Ça fait 6 mois que je viens de cette église. Tout le monde m'a félicité, mais j'arrive pas à comprendre qu'est-ce que c'est. Mais ils ont vu quelque chose dans mon visage qui n'était pas ce matin, à l'entrée, quand j'ai entré. Après, il m'a dit, ton visage était en train de briller. Tu avais quelque chose dans tes yeux que ce n'était pas avant. Tout à coup, paf, tu as changé. Je dis, ah bon? J'ai changé. Et petit à petit, j'ai vu. J'ai vu avec mes amis, les copains, copines des copains de la roue. Enfin, on était une bande de copains, on fait tous les bêtises ensemble. Je suis allé encore avec eux, pour parler avec eux. Je n'ai rien à dire. Tout ce qu'il dit, ce n'est pas intéressant pour moi. Je n'ai rien à dire. Toujours, je voulais aller à l'église, parler avec les nouveaux copains, parler avec Jésus, parler à propos de Jésus avec les chrétiens. Et ça, oh là, quel plaisir! Où c'était pendant tout ce temps? Finalement, j'ai retrouvé ce que j'ai cherché. Et avant, j'ai fait le namaz 4 semaines et j'ai laissé tout. Et j'avais peur que même ici, je dois le laisser. Mais maintenant, ça fait 25 ans que je n'ai pas laissé. J'ai converti en 85. Et jusqu'à maintenant, je vois que vraiment, on peut avoir une relation intime avec Dieu. On peut avoir un dialogue. On peut parler et entendre. Bien sûr, dans toutes les autres religions, on parle. Mais on n'entend rien. Il ne parle pas parce que c'est faux. C'est un faux Dieu. Mais Jésus parle avec moi. Et il m'a appelé pour servir en 89, qu'on est mariés ensemble. En 89, je suis entré dans Campus pour Christ. Vous connaissez? C'est exactement l'Agape. Campus Crusade for Christ, c'est en Orlando, en États-Unis. Mais c'est un mouvement avec des milliers de branches, de bureaux, dont tout l'univers, tous les pays, pratiquement tous les pays. Et ici en France, on a Agape France, mais moi, autant qu'un Iranien qui travaille dans le Moyen-Orient, je suis attaché de bureau Life Agape. C'est comme Agape, mais on ne travaille pas en France, on travaille pour tous les pays du Golfe, Moyen-Orient, Afrique du Nord et pays Asie centrale. C'est Afghanistan, Tadjikistan, Kyrgyzstan, Kurdistan, tous les pays qui étaient libérés après 90, je pense, l'USSR, qui étaient libérés de cette système. Et j'ai commencé mon service de Iran en 89, que Mina était déjà chrétien et déjà engagé en Christ. On s'est rencontrés, on s'est mariés. Et les deux filles que nous avons, Shadi et Omid, Shadi, c'est-à-dire la joie, Omid, c'est l'espoir. Alors, on a la joie et l'espoir à la maison. On l'a laissé là-bas. Et je pense jusqu'ici, ça va pour moi. Et je laisse le micro pour Mina. Après, je vous joins encore. Je viens ici pour vous partager la mission. Mina, tu peux? On peut l'applaudir, hein?
Bonjour à tous. Merci de nous accueillir. Excusez-moi, je vais lire mes notes car mon français n'est pas très bon. Je m'appelle Mina, je suis iranienne. Et cela fait 15 ans que je vis en France avec mon mari Joseph et mes filles qui ont 19 ans et 15 ans. Cela fait 30 ans que j'ai eu la révélation que Jésus-Christ est mon sauveur. Et 28 ans que je sers le Seigneur. Je suis née dans une famille musulmane en Iran et j'ai grandi avec la foi qu'il y a un Dieu créateur. J'ai grandi en sachant que je n'étais pas un enfant désiré. Lorsque ma mère a appris qu'elle était enceinte de moi, elle a tout fait pour m'éliminer. Elle avait déjà deux enfants. Elle était dans une situation qui ne lui permettait pas d'en avoir un troisième. Elle a utilisé plusieurs médicaments, plusieurs injections. Elle portait des choses lourdes, telle qu'une machine à coudre et se jeter du haut de la table avec, afin de se débarrasser de moi. Mais elle n'a pas réussi. Et maintenant, je suis là devant vous, une fois venue au monde. Mes parents m'ont aimée de tout leur corps jusqu'à aujourd'hui, mais malgré leur amour, le sentiment d'être non désiré était toujours en moi. Surtout parce que le reste de la famille, pour rigoler avec moi, m'appelait l'orpheline. Ils me disaient que mes parents m'avaient trouvé devant la porte. Ils me disaient de quitter la table lors des repas parce qu'ils me trouvaient moche et disaient que je leur faisais perdre l'appétit. Et ensuite, il rigolait. La mine de ma mère me disait toujours que je n'avais pas été invitée sur cette terre. Moi, j'étais petite. Et c'était très lourd à supporter. Et je le croyais. Et c'est pourquoi je restais toujours seule dans mon coin. Il me faisait du mal et moi, je devenais triste. Je fronçais les sourcils et après il disait « Quelle mauvaise fille, pourquoi elle ne sourit pas ?» Mes parents me défendaient. Ils leur disaient d'arrêter, mais tout cela a eu un impact sur moi. J'ai toujours eu le sentiment d'être rejetée. J'ai commencé à faire la prière avant l'âge autorisé, car j'aimais beaucoup mon Dieu. En grandissant, je me suis aperçue que je ne ressentais pas la présence de ce Dieu. Et je ressentis un vide dans ma vie. J'avais une grande soif et je voulais être proche de lui, mais je n'y arrivais pas. J'étais une fille très triste et nerveuse. Lorsque j'avais 14 ans, mon professeur de Coran nous a dit qu'il y a un verset qui dit qu'il faut chercher et trouver le meilleur. Ce verset m'a troublée car je croyais avoir le meilleur. Et en plus, c'était mon professeur de Coran qui me disait ça. J'ai pris la Bible d'une de mes amies chrétiennes, mais je trouvais que Jésus était très orgueilleux, car il disait qu'il était le pain de vie, la lumière du monde, le chemin, la vérité et la vie. Il n'arrêtait pas de dire « moi je, moi je, moi je ». Tout cela sont les qualités d'un dieu. Mais moi, je croyais que c'était un prophète. Et j'ai rendu la Bible à mon ami. Ensuite, j'ai commencé à étudier d'autres livres religieux et surtout le Coran. Durant mon étude, j'ai vu que la vie de ma tante avait complètement changé. Et c'était très étrange pour toute la famille, car elle se faisait toujours du souci par peur de perdre son bonheur. Lorsqu'on lui a demandé ce qui s'était passé, elle a dit qu'elle avait accepté Jésus comme son sauveur et qu'elle avait maintenant trouvé la vraie paix et le vrai bonheur. J'étais très contente pour elle, mais j'étais très triste car j'avais perdu mon ami. Pour moi, elle était devenue infidèle. Elle m'a donné beaucoup de livres pour mes recherches et on débattait sur la religion. Mais je me mettais en colère. Mais elle restait calme et bienveillante. Lorsque j'ai relu le Coran, les piliers de ma foi ont commencé à trembler car il y avait beaucoup de contradictions dans ce livre. Chaque jour, je devenais de plus en plus triste, car je ne savais plus sur quoi m'appuyer. Je n'arrivais plus à faire ma prière, alors j'ai commencé à prier dans ma langue maternelle. Et j'ai demandé à Dieu de me montrer la vérité. En voyant la vie de ma tante, j'ai relu la Bible. Et cette fois, les versets avaient une force et une puissance qui m'ont touchée. J'étais prête à mourir plutôt que de devenir une chrétienne. Mais j'étais attirée par cette parole. J'avais une bataille en moi et j'ai perdu 11 kilos. Pas mal. Et un jour, à 18 ans, quand j'ai sombré dans le désespoir, je me suis mise à genoux devant Jésus et je lui ai dit, si tu es vraiment la vérité, si tu es vivant, viens dans ma vie et je te suivrai pour toujours. Pardonne-moi. À cet instant, j'ai profondément ressenti sa présence. Il était là, il était avec moi. Il se révélait à moi. J'ai senti qu'il m'avait totalement pardonné, qu'il m'aimait et qu'il resterait toujours avec moi. Pour la première fois, j'ai senti que Dieu était proche de moi. Sa présence était absolument convaincante. Après cette prière, je me sentais léger. Libre, joyeuse, paisible. Je sentais que le vide était rempli de sa présence. À partir de ce jour, toute ma vie a été transformée et j'ai commencé à aller dans une église perse. Je pensais que j'étais la seule musulmane à m'être convertie, alors qu'il y avait beaucoup d'autres gens qui se trouvaient dans le même cas. Cela fut un encouragement pour moi. J'ai appris ensuite que mon frère était devenu chrétien durant le même mois que moi. Et notre plus grand souhait était que notre famille connaisse elle aussi la vérité, qu'il est sauvé. Mon père essayait de nous ramener à l'islam. Il a commencé à lire la Bible et le Coran. Et lorsqu'on a appris que ma mère avait un cancer. Il lut un verset dans le Coran qui disait que Jésus guérissait les malades. Alors il nous dit à mon frère et moi, si Jésus est vivant, si Jésus est vérité, si Jésus guérit ma femme, je rejette l'islam et je le suivrai. Ma sœur disait que c'était à cause de notre infidélité que notre mère était malade. Mon frère et moi étions gens en Christ, mais nous avons demandé à Dieu de défendre son nom. Et nous avons prié et jeûné avec l'Église durant les 40 jours où ma mère était à l'hôpital. Nous avons trouvé le meilleur médecin d'Iran, mais après l'opération, il nous a dit qu'elle n'avait plus que 6 mois à vivre, car le cancer s'était emparé de tout son corps. Après un scanner, on apporta les résultats au médecin et il nous dit que ce n'était pas ceux de ma mère. On refit un scanner et cette fois, le médecin dit que la science ne pouvait pas expliquer. Cela ne pouvait pas expliquer cela, mais que la seule chose qu'il savait, c'est que Dieu aimait cette femme. Le cancer avait disparu de tout son corps. Et cela fait 30 ans qu'elle vit aujourd'hui. Ouais. Après cela, ma mère m'a dit, on t'a dit que tu n'avais pas été invité à venir au monde. Mais maintenant, je sais que c'est Dieu qui t'avait invité à être, non seulement sur cette terre, mais aussi dans son royaume. Grâce à la guérison de ma mère, plus de la moitié de ma famille est devenue chrétienne et la plupart servent le Seigneur. Quand j'ai vu ce qu'il avait fait pour moi, je lui ai dit que je voulais vivre pour lui et que je voulais le servir afin que tout puisse trouver la vérité que j'ai trouvée. Je lui devais ça. Vraiment, je lui devais ça. J'ai participé à des séminaires et à des études bibliques pour mieux connaître Jésus. Après 2 ans, j'ai eu un appel et j'ai commencé à servir dans la correspondance internationale. Et en même temps, j'ai étudié la théologie. 2 ans après, je suis devenu équipier d'Agapé. Et encore 2 ans plus tard, je me suis mariée avec Joseph. C'était très, très étrange de voir 2 familles musulmanes réunies à l'église pour marier leurs enfants chrétiens. C'était très beau. Ils ont accepté notre mariage car ils avaient vu le pouvoir de Dieu dans notre vie et ils ont respecté notre foi. Après l'assassinat de plusieurs pasteurs, on nous a demandé de quitter le pays parce que nos noms se trouvaient sur la liste. Nous sommes venus en France en 1995 et depuis nous préparons des émissions radio et cela fait 4 ans que nous avons commencé à produire des émissions télévisées pour le peuple d'Iran, d'Afghanistan, de Tadjikistan et tous les Iraniens en dehors du pays. J'ai ma propre mission pour les femmes qui consiste à écrire des messages pour elles qui sont ensuite enregistrés et qui passent sur la chaîne SAT Parse du satellite. Cela fait plusieurs années aussi que nous avons une mission en rapport avec le téléphone. Nous conseillons, prions et envoyons la Bible à tous ceux qui le souhaitent. Le téléphone est allumé toute la journée jusqu'à minuit à l'heure d'Iran. Nous allons aussi commencer une mission que nous aurons en commun sur notre chaîne perse qui s'appelle Sama TV. Nous avons également commencé à voyager en Europe pour former des disciples parmi les Iraniens. Plusieurs choses que Joseph a dit. Veuillez prier pour nous et notre mission. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. Merci.
Heureusement que sa mère n'arrive pas de faire. Sinon, je n'avais pas ma belle-femme. Que de te garde. Vraiment, si j'étais quelqu'un d'autre que Mina, je n'étais pas ici. C'est toujours derrière moi, pour soutenir, à côté de moi, pour m'aider, pour la mission. On fait presque tous ensemble. Discipola, c'est ensemble. C'est télévision, c'est ensemble. Mais avant qu'on passe en détail de notre mission, je veux attirer votre attention sur l'Iran. On a un petit DVD. Qui sait où est l'Iran? Que Dieu vous garde. Merci. 10% ou bien 15%? Alors, l'Iran, c'est en Moyen-Orient, entre Irak et Afghanistan. Je pense que c'est deux pays plus connus maintenant, après tous les bombardements et la guerre qui étaient... D'abord en Afghanistan et après en Irak, on est juste au milieu. Au sud, c'est quoi? C'est Golfe Persique. En nord, plus grand lac du monde, c'est Mer Caspien. On appelle Mer Caspien, mais c'est un lac. C'est plus grand. Et on va voir cette DVD jusqu'au milieu. Cette DVD appartient de mes amis, enfin moi aussi, je suis dedans. Vous allez voir. Et c'est Two Ministries. C'est un ministère qu'on travaille côte à côte ensemble. Je suis pasteur de ce ministère aussi. Le jour de reconnaissance pastorale, les pasteurs iraniens, ils étaient là en France, dans notre église à Évry. Et cette reconnaissance, c'est en langue perse et français que vous avez raté. Vous étiez invité, mais vous n'êtes pas venu. C'est un empêchement quelque part. Mais c'est un plaisir de partager ça avec vous aussi. Muriel et Jamie sont des amis de longue date. On était voisins à Massy depuis quelle année? Dès qu'on est entré, je pense, 96, 17.
On s'est rencontrés avec Naomi et
Oui, à l'école, c'est ça. C'est... Dès le maternel, c'est le oui, c'est Omid a 15 ans maintenant. Le maternel, vous pouvez compter 10 ans en arrière, même plus peut-être. 11 ans à peu près, oui. Alors, on va regarder cette DVD ensemble. C'est prêt? Et c'est tout en anglais, mais heureusement, il y a un sous-titrage français. C'est exactement pour vous.
When you think of Iran, what image do you see?
C'est à l'entrée de Téhéran.
Zealous Muslims ready for war. Anger, hatred, fanatic religion. National unity against the West. A country steeped in Islamic tradition and history. The truth could not be more different. The Islamic Republic of Iran was established in 1979. Prior to this, Iran had enjoyed close and prosperous links with the West. But under the assumption that this Western influence was causing corruption in government, Iranians opted for an Islamic government. Almost immediately, women were required to wear the veil, Western music and alcohol were banned, and the punishments described by Islamic law were reinstated. What was meant to bring positive change has over the years brought pain and destruction. The people of Iran are suffering under an oppressive regime and a religion that has brought pain, hopelessness, and depression. unemployment, poverty, and prostitution are on the rise. Iran has the highest opiate drug addiction rate in the world. Heroin flows over the borders from Afghanistan and is all too easily available. There are some 3 to 5 million drug addicts in Iran. 21% of all Iranians are officially depressed. Over the last few years, Iran has been subject to many earthquakes, most notably in Bami, December 2003, killing more than 40,000 in just 12 seconds. According to official figures, there have been 17 earthquakes in the last 12 months of magnitude 5 or greater. Between 1980 and 1988, Iran fought with Iraq, killing over 1 million people, not to mention the thousands who were severely injured. Since the 1979 revolution, the church has faced much persecution. Many have been imprisoned, and at least 8 senior church leaders have been martyred. The Bible Society has been closed down, and particularly in the last few years, intimidation and restrictions placed on believers has grown like never before. Yet we know God has not forgotten Iran. Right now, amidst all this oppression, more Iranians are coming to Christ than ever before. Persecution designed to destroy the church has in fact brought life. More people have come to Christ since 1979 than in the previous 1,300 years since Islam came to Iran. Yet Iran has the potential for even more. Iran, once Persia, has had godly leaders. King Cyrus the Great made the first declaration of human rights and is referred to in the book of Isaiah as God's anointed and God's shepherd. King Darius once prayed, "God, protect my country from foes, famine, and falsehood." He proclaimed, "I issue a decree that in every part of my kingdom, people must fear and reverence the God of Daniel. For he is the living God, and he endures forever. He rescues and he saves. He performs signs and wonders. He has rescued Daniel from the power of the lions." Many of the great prophets and leaders of the Old Testament walked over land that is now Iran. Esther, Daniel, Nehemiah, Ezra, and Habakkuk. The tombs of Esther, Daniel, Habakkuk, Cyrus, and Darius can be found in Iran today. Iranians are amongst the first converts to Christianity, with Parthians, Medes, and Elamites mentioned in Acts. In Jeremiah, God promises restoration for Iran. Elam was where Iran is today. Once blessed and prospering, Iran's people are now suffering. We know God's word is true, and he will bring to pass all his promises over Iran. He has plans for Iran, plans to prosper it, plans to give the people of Iran hope and a future. We believe that time is now. God has opened the hearts of Iranians to the gospel. Thousands are coming to salvation every month. The message of hope and deliverance is accepted with open arms. At 222 Ministries, we are focused on the day when Iran will once again reflect the glory of God. We want to see Iran transformed into a nation that bears the image of Christ, renewed in every level of society, from spheres of influence in government and business, through to everyday relationships, family, and the community. We believe true transformation can only ever come if individuals with the right levels of authority, influence, and anointing can cause such transformation. Chichitu Ministries is working with a clear mission to raise and develop a new generation of servant leaders in Iran, released and empowered to fulfill the call of God on their lives. Leaders who will establish churches and influence the nation at every level of society. We believe that time for change is now. We want to see Iran changed for God. Our heart is that this transformed nation will be a blessing and influence on its surrounding countries and throughout the Middle East. But who will teach these new converts? Who will explain God's word to them? Who will raise this generation of leaders who can transform the very fabric of society? The harvest certainly is great, and the workers are few. Tujuju Ministries, established in 1991, is built upon the principles of 2 Timothy 2:2. And the things you have heard me say, in the presence of many witnesses, entrust to reliable men who will also be qualified to teach others. The harvest is scattered and behind difficult political obstacles. If we wait to teach and equip using conventional means, we will lose the battle against time. The fruit will be lost to false teachers and weeds. Tujuju Ministries has developed a portfolio of training programs that will be able to reach the masses, the thousands who are coming to Christ every month. By using an integrated strategy of the internet, television, printed and digital teaching resources, and carefully planned training seminars outside Iran, we are able to ensure every new believer is grounded in the Word of God, able to give an account of his faith, and equipped and trained to pass on these truths to others. Pastors and leaders all over Iran connect with growing Christians, giving input and nurturing growth. We believe God has given us this unique strategy in order to enable us to effectively raise, develop, release, and empower leaders who will transform Iran and its surrounding nations, that the kingdom of God will be established.
Okay, on peut arrêter ici? Oui, oui. Okay. Oh, je pense que je vais utiliser ça. Alors, comme vous avez vu, Iran et notre Bible, il a beaucoup de choses en commun. Il y a plein de choses qui sont passées en Iran, l'histoire biblique, le tombeau de Daniel, Esther, Mordecai, non, c'est Mardoché, en français c'est Mardoché, surtout Habakkuk aussi, c'est toujours en Iran. Daniel, c'était notre premier ministre. Esther, c'était une reine de notre roi. Néhémie, c'était dans le palais du roi de Perse. Et quand Néhémie est venu pour reconstruire le muraille autour de Jérusalem, c'était avec quel argent? C'était avec toutes les offrandes de chats d'Iran. C'est le gouvernement de l'époque d'Iran qui était d'accord. Il a donné tout à Néhémie, aller construire cette muraille. Tout est passé en Iran. Il a une place spéciale dans la Bible. Et pourquoi je vous ai montré ça? Tujuju Ministries et Life Agape, le bureau qui est en France, on travaille côte à côte. En fin de ce mois, le 28, on part pour Chypre et pour émission de télévision. Et à la fin du mois de mars, on va en Arménie avec Tujuju Ministries, avec les Iraniens qui viennent. Ils sont les jeunes leaders choisis dans l'église clandestine en Iran, qu'il vient pour être formé en Arménie. Et moi et Mina, on va là-bas pour les former. Après, c'est une période de 2 ans. Tous les 6 mois, on les sort de pays, on les forme, on parle ensemble, on passe le temps ensemble. Et chaque semaine, à travers Internet et église en ligne qu'on a construit avec mes amis dans Tujuju Ministries, je serai leur pasteur de overseas, c'est de loin. Je serai leur pasteur chaque semaine. Je partage un message avec eux et on va prier ensemble. C'est comme ça qui marche avec Iran. On ne peut pas y aller à l'intérieur. On ne peut pas. C'est impossible. Vous pouvez y aller comme touriste. Vous pouvez aller prier sur place, mais vous ne pouvez pas évangéliser. Moi, il vaut ma tête vraiment. Il vaut ma peau. Comment on dit en français? Ma tête ou ma peau?
Les deux.
Il ne me reste rien alors. Il vaut ma tête, il vaut ma peau. Parce qu'on a commencé radio en langue perse, radio chrétienne en langue perse, en 96, un an après qu'on arrivait en France. Et ça durait jusqu'à aujourd'hui. J'envoie les messages perses, mais ce n'est pas un nouveau programme. Je rediffuse un ancien programme, mais la télé, on produit le programme télé depuis 2005. Mina, comme elle a dit dans son témoignage, elle a son propre programme télé. Elle visait les femmes, leurs besoins, leur attention. Elle regarde la Bible à travers les yeux d'une femme. Et parce que je ne comprends pas, c'est un point de vue différent que normalement, moi, en tant qu'un homme, je n'arrive pas à comprendre certaines choses, mais Mina, elle comprend bien. Et moi, comme un pasteur, j'ai un large choix pour mes messages, pour retrouver des sujets. Alors, je prêche à la télé, c'est le programme de 26 minutes, différents sujets, Mina aussi, le sujet pour les femmes. On va faire ensemble, pour première fois, tous les deux devant télé, dimanche prochain. Et je vous demande vraiment, priez pour nous, mais le pasteur est d'accord, après le culte, si vous restez, priez pour moi et Mina, on a besoin de vous vraiment. Une semaine de tournage en Chypre, on va en Chypre, et les enfants sont tout seuls à la maison. Oui, on ne peut pas l'amener, c'est billet d'avion, hôtel, après. On a fait déjà pour 2-3 jours en Belgique, mais moi et Mina, on est tous les jours dans le studio. Le pauvre Shadi Omi doit rester dans la chambre d'hôtel toute la journée. La nuit, le papa et maman vient fatigué pour dormir. Le lendemain matin, même musique. Encore, rester dans la chambre d'hôtel. Alors, on a dit, on fait confiance au Seigneur. À la maison, ils sont plus tranquilles et beaucoup plus de choses à faire. Les livres, télévision, Et c'est mieux pour elle, rester ici en France. Mais vraiment, on a besoin de votre prière. Alors, notre mission, c'est à l'extérieur. C'est Iran, c'est un pays un peu particulier, il n'y a pas autre pays dans le monde comme Iran. Tous les grands leaders chrétiens, ils sont à l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur, ils sont soit martyrs, morts, enterrés, soit derrière les barreaux. Oui, ok, allez-y.
Il y a actuellement au cinéma un film qui s'appelle Les Chats d'Iran, sur la jeunesse iranienne.
Hein. Au cinéma.
En même temps qu'on avait une Victus, on a aussi Les Chats d'Iran. Donc c'est un petit film qui montre la réalité de la jeunesse iranienne qui ne peut pas s'exprimer du tout, qui est tout le temps limogée, qui vit des taupes, qui vit dans des sous-sols quand il veut faire de la musique, qui est désespéré. Enfin, le désespoir, Dieu a absolument besoin d'être, d'être là. Enfin, je veux dire, c'est
bon, je vous encourage à aller regarder ce film. Pour connaître vraiment mieux. Oui. En France, on connaît bien l'Afrique. Si je parle de Maroc, par exemple, tout le monde connaît. Algérie, Tunisie, tout le monde connaît. Mais Moyen-Orient, ça reste un peu mystère pour les Européens. Les Américains, ils comprennent mieux Moyen-Orient qu'Afrique. Mais ici, on connaît mieux Afrique que Moyen-Orient. Alors, Iran, c'est quelque chose à découvrir. C'est quelque chose à découvrir pour vous. Et c'est notre mission, notre appel pour former les disciples, former des leaders à travers radio, télévision, rencontres, discipolat personnel, face à face. Et on continue. Et pour cette grande aventure, tout seul, on n'arrive pas. On ne peut pas. On ne peut pas aller. Quand vous avez dans cette DVD, il y a plusieurs personnes qui travaillent. Il y a plusieurs collaborateurs. Et moi, j'ai besoin d'un collaborateur, des collaborateurs. J'ai besoin de vous pour prier. Sans prière, rien qui marche. Rien du tout. Et apparemment, c'est une heure qu'on est en train de parler. Je pensais en 45 minutes, on peut terminer. Mais seulement une petite chose. Vous vous souvenez le passage que Jésus a parlé des ouvriers? Que le maître a envoyé quelqu'un pour chercher des ouvriers à 6 heures de la première heure. Après, il a envoyé encore pour deuxième, troisième, jusqu'au 11e heure. Mais les récompenses pour le premier heure, l'ouvrier de première heure et l'ouvrier de dernière heure, c'était la même chose. On prend cet engagement pour prier pour le ministère, pour prier pour notre ministère, vous allez recevoir la même récompense que les gens sur place, que les gens qui vont en danger de mort, danger de voyage, danger de plein d'autres choses, attaques ennemies, qu'on a parlé ensemble un peu, les attaques droite-gauche, les choses inexplicable qui tombe dessus. Vraiment, c'est un prévu qui n'a jamais existé auparavant. Pof! Ça vient, la voiture qui tombe en panne, l'ordinateur qui est tout à coup, là où on a besoin, boum, il refuse d'allumer. Et il fait ses caprices. Ah, yes, ses caprices. Je viens d'apprendre. Et les choses qui arrivent pour nous, mais vous êtes engagés, vous priez pour nous, et la récompense que le Seigneur nous donne, c'est égal. Les gens qui restent à côté des bagages et les soldats qui vont à la guerre. Le roi David, il a dit, ils sont des récompenses égales. Si vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, c'est la loi en Israël. Que les gens qui gardent les chevaux, ils gardent les bagages, ils ont même récompense que les gens qui vont à la guerre. Alors, je vous encourage, priez pour nous, restez à nos côtés, vraiment. J'ai des prospectus à vous donner. Je laisse un côté ou on partage comme ça? Ok.